Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Gâchette, vous avez dit gadget ? Gaston Beauchamp était un coureur des bois, un trappeur d'origine française qui, en ce milieu du XVIIIe siècle, vivait en Colombie-Britannique au nord-ouest du Canada. Il avait épousé une Indienne, Lakota. Tous les deux s'aimaient d'un amour tendre et vrai. Ils vivaient dans une maison en rondin que Gaston avait construite de ses propres mains. Leur vie était rude, dure, mais aussi magnifique et enchantée. Ils habitaient un pays sauvage et libre, insouciant et neuf. La forêt était riche de gibier, cerfs, wapitis, ours bruns, blaireaux, gloutons, lièvres, loups. La plaine, riche de bisons, de chiens de prairie et d'antilopes d'Amérique, les rivières, riches de millions de saumons et de truites. Sur les bords des torrents, ils chassaient les castors, si nombreux que l'on pensait à tort qu'ils constituaient une manne inépuisable. Gaston, homme simple et direct, s'entendait très bien avec tous les Indiens. Il allait vendre ses peaux de castor et de bison au comptoir de Vancouver ou dans des rendez-vous, rassemblements de trappeurs et d'hommes des montagnes avec des commerciaux venus des villes. Avec son épouse et leurs enfants, il coulait des jours paisibles. Un jour, alors qu'avec sa femme, il grattait et nettoyait des peaux de bison, il voit arriver un marchand sur un chariot rempli de babioles et autres objets utiles, quelquefois amusants, d'autres fois inutiles, voire nuisibles. Ce jour-là, le colporteur à l'américaine lui propose des fusils et des outils divers. Alors Gaston le regarde dans les yeux et d'une voix forte et calme, il lui dit « J'ai construit ma maison avec cette seule hache. Et mon vieux fusil à poudre me suffit. Pourquoi encombrer ma cabane et mon âme de 1000 babioles dont nous nous passons fort bien ?» Et son épouse de renchérir avec les yeux pleins de malice, mon père, ours bienveillant, avait dit à tous ses guerriers et fils, « Ne bradez pas votre terre et votre manière de vivre pour des mots dénués de sens inscrit sur un papier et des chariots remplis de babioles. » Gaston et sa femme invitent le colporteur à partager le café. Avant de repartir, le marchand de Vancouver vante à nouveau ses fusils. « Regardez-moi ces fûts de bois, cet acier, ces gâchettes si sensibles, les gâchettes, n'oubliez pas les gâchettes !» Alors Gaston lui lance de sa voix rauque, avec son fort accent québécois, « Salut la gâchette ! Salut Gadget !» Et désormais, il l'avait surnommé le père Gadget et toutes les choses qu'il vendait des gadgets.
Albert est amoureux de la lune. Des lianes frappent. Au café, en bas de la grande charrière, Hippolyte, Ambroise et les autres, devant leur verre de vin, vous le diront, Albert est amoureux de la lune. Léoncie, Thérèse, Blanche et toutes les femmes qui montent la grande rue vers la cure, l'église ou le cimetière, tournent la tête vers la maison d'Albert et marmonnent d'un air entendu, « Albert est amoureux de la lune !» Dès l'aube dans son jardin, entre les roses trémières, les pivoines et les poireaux, Fernande, sa moitié depuis fort longtemps, dit à qui veut l'entendre, Son Albert est amoureux de la lune. Moi, petit ver sorti de ma pomme, tombé de mon pommier, petit ver à l'œil noir et à la chemise blanche, installé entre la porte du jardin et la fontaine, je vous le dis, Albert est amoureux de la lune. Pourtant, chaque matin vers les 10 heures, quand le temps est clément, Albert s'assied sous le petit pommier entre la porte du jardin et la fontaine. Moi, petit ver à l'œil noir et à la chemise blanche, je vous le dis. Albert est un drôle de bonhomme, fainéant, paraît-il. Il a été forgeron, régisseur du château par là-haut, Bressieux pour tout vous dire, et même cantonnier. Il adore les objets les plus vieux et les plus étranges. Après une bonne cure de jouvence, frottée, réparée, ceux-ci vont enrichir sa caverne d'Ali Baba. Je vois Albert installé vers 10 heures sur le banc, sous le petit pommier. Fernande, sa moitié, arrive avec une tasse fumante, un rasoir et un peigne. Fernande rase son Albert, le coiffe, lui ajuste ses bretelles, lasse même ses chaussures. Moi, petit ver à l'œil noir et à la chemise blanche, je peux vous dire qu'entre ces deux-là, il y a une tendresse, une complicité, un amour qui fait plaisir à voir. Pourtant, je vous le dis, Albert est amoureux de la lune. Dans la journée, Fernande vient s'asseoir sur le banc après avoir ramassé ses légumes, pioché ses allées, nourri ses lapins. Son Albert est je ne sais où. Moi, petit ver à l'œil noir et à la chemise blanche, j'entends Fernande raconter à une de ses amies, assise à ses côtés, que son Albert, chaque fin d'après-midi, monte dans sa chambre en haut de la maison. Il pose sur la barrière du couloir ses vêtements préparés, son plus beau pantalon en velours noir côtelé, sa veste assortie, son béret. Sa ceinture de flanelle, une fois enroulée, lui fait une ligne de jeune homme. Enfin, presque. Il s'habille avec grand soin. Il lasse même ses chaussures, tout seul. Il ajuste son béret devant le miroir au bout du couloir. Il sourit et descend d'un pas léger les escaliers, traverse la salle commune, passe devant la cheminée, ne voit personne, sort à l'arrière de la maison et là, en haut de l'escalier, il s'appuie au pommeau de la rampe. Et moi, petit ver à l'œil noir et à la chemise blanche, je vois Albert. Il attend sa belle. Il se tient très droit, le torse dégagé. Il est en pleine félicité. La belle apparaît avec ses yeux ardents, son petit nez et son magnifique sourire. Je l'ai même vu un soir à la belle étoile lui faire un clin d'œil. Albert récite des poèmes, fredonne ses mélodies les plus envoûtantes. Certains soirs, la belle, un rien coquette, se cache à moitié derrière les nuages, réapparaît, se fait attendre ou ne vient pas du tout. J'entends alors Albert descendre l'escalier d'un pas pesant. Il se laisse tomber sur le banc sous le petit pommier entre la porte du jardin et la fontaine. Son regard est triste. Ses épaules se voûtent. Ma présence, je crois, lui fait du bien. Je sais qu'Albert, dès demain, sera en haut de l'escalier derrière la maison. Comme tous les soirs, il attendra sa belle. Oui, Albert est amoureux de la lune. Un jour, Fernande se reposait sur le banc entre la porte du jardin et la fontaine sous le petit pommier. Un photographe montant la grand rue s'est arrêté et s'est assis sur le banc Fernande, un peu triste ce jour-là, a raconté son histoire. Et le photographe a répondu « Dans tous les pays, à tous les âges, toutes les femmes, si elles sont aimées, sont toutes de grâce, de beauté, de lumière. Peu d'hommes savent vraiment les regarder. Ils préfèrent admirer la lune. » Une poétesse chinoise, Xu Tao, a composé un poème. L'âme de la lune prend la forme d'une mince faucille pour tisser peu à peu un éventail tout rond. Quand sa mince silhouette s'épanouit, devient pleine, presque partout dans le monde, les hommes lèvent les yeux vers elle.
Les sept pierres du désert, c'est un conte que j'ai écrit il y a une dizaine d'années à l'occasion de la sortie d'un livre que nous avons écrit avec le cercle des conteurs du Briançonnais à propos de la guerre de 14-18. En septembre 1915, rentrant de permission, Marcel ne retrouve pas son régiment. « Est-ce que je me suis égaré ?» se dit-il. Il traverse un hameau abandonné et là, il glane quelques pommes de terre et carottes oubliées. Il rentre dans une maison et commence à préparer sa soupe. C'est alors qu'un autre soldat le rejoint. « Salut, je m'appelle Ali. Moi, c'est Marcel. » Tout de suite, les deux hommes se sentent une vive sympathie l'un pour l'autre. Tous les deux sont vignerons, tous les deux sont nés sur les bords de la Méditerranée. Ali aide Marcel à faire la soupe et les deux hommes parlent tard dans la nuit. Ali, nous voici balancés dans cette triste galère. Nous affrontons chaque jour des périls qui nous dépassent. Chacun fait ce qu'il peut, c'est sûr. Mais crois-tu qu'une cause quelconque mérite que l'on risque sa vie et que l'on menace celle d'autrui? La patrie, le socialisme, le progrès, le capitalisme, tout ça, c'est des grands mots, de belles idées. Mais au fond, il n'est légitime de risquer sa vie que pour défendre un ami, un frère, un territoire, un terroir, un voisin, un mode de vie. Mais sûrement pas pour défendre des idées ou des intérêts abstraits et lointains. Je suis entièrement de ton avis, répond Ali, et j'ajouterai qu'il n'est juste de se battre que pour défendre ceux que l'on aime, et non pas parce que l'on a peur ou que l'on est un soi-disant ennemi. Chez nous, en Algérie, les anciens ont l'habitude de raconter ce conte aux enfants, les sept pierres du désert. Ali ferme les yeux et raconte. C'était il y a longtemps. Daher, le Bédouin, chevauchait dans ces grands espaces du désert qu'il aimait tant et dans lequel on ne rencontre pas cette boue dans laquelle nous pataugeons. Ce jour-là, il est tout joyeux, car il va retrouver son ami Nabek. En arrivant au campement de son ami, il saute de son cheval et il s'adresse tout de suite à Nabek. « Mais tu es magnifiquement vêtu aujourd'hui et tu portes même le sabre au côté. » « C'est que je me rends chez Abdullah. » « Mais que s'est-il passé ? » ?»« Eh bien voilà, certains guerriers de la tribu d'Abdullah sont venus nous voler des chevaux. Tout de suite et sans m'en avertir, quelques-uns de mes hommes sont repartis pour reprendre les chevaux. Ils se sont battus et je dois mettre un terme à toute cette violence. Mais comment vas-tu t'y prendre? Viens avec moi, Daher. Les deux hommes partent à cheval pour rejoindre la tribu d'Abdullah. Lorsqu'ils arrivent dans la plaine, Abdullah se tient vers le centre et tous les guerriers de sa tribu brandissent leurs lances vers le ciel. Nabek descend de son cheval et il arrive tranquillement vers Abdullah. Abdullah ne peut s'empêcher d'admirer le calme et le courage de Nabek. Nabek fait un signe en direction de Daher. Abdullah leur propose de partager le thé à la menthe. « C'est avec joie, » répond Nabek. « Mais d'abord, nous devons enterrer les sept pierres du désert, les sept pierres de la guerre. » Abdullah et Daher creusent sept trous dans le sable. Nabek, lui, ramasse sept pierres. Voici la première pierre. C'est celle de la souffrance. Née de l'humiliation, de l'injustice, de la frustration. Enterrons bien profondément cette première pierre, la souffrance, dans le sable du désert. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Cette souffrance fait naître la haine dans nos cœurs. Enterrons bien profondément dans le sable du désert cette deuxième pierre, la haine. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Cette haine engendre le désir de vengeance. Enterrons bien profondément cette troisième pierre dans le sable du désert, le désir de vengeance. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Le désir de vengeance vient du fait que l'on veut toujours avoir raison. Enterrons bien profondément dans le sable du désert cette quatrième pierre, la folie de vouloir avoir toujours raison. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Et puis, il y a la rancœur, cette amertume qui nous suit partout mieux que notre ombre. Enterrons bien profondément cette cinquième pierre, la rancœur qui nous pourrit du dedans. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Enfin, il y a l'orgueil, le sentiment exagéré de nous-mêmes, qui correspond à l'amour-propre blessé. Enterrons bien profondément cette sixième pierre dans le sable du désert, l'orgueil. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Tous ces sentiments nous conduisent au désespoir, à se sentir seul, dans une impasse, confronté à une suite fatale d'événements. Enterrons bien profondément cette septième pierre, le désespoir, dans le sable du désert. Qu'il en soit ainsi, reprennent en cœur tous les guerriers. Nabek, Daher et Abdullah ont enfoui dans le sable du désert avec le plus grand soin ces sept pierres. Puis, ils se sont lavés les mains dans l'eau claire et limpide de l'oasis avec un morceau de savon d'Alep. Nabek a ajouté quelques mots. Prions pour qu'au sein de cette terre, ces graines de mort deviennent graines de vie. Puis tous les hommes se sont réunis, ils se sont assis en cercle devant le campement au dernier rayon du soleil et ils ont partagé le thé à la menthe. Ali rouvre les yeux, il sourit à son nouvel ami Marcel. Et ces deux hommes sont partis se coucher. Ils ont dormi cette nuit-là d'un sommeil paisible, profond.
Mouchier en Saintois au XIXe siècle. Aux environs des années 1850, dans ma petite commune du Saintois d'une centaine d'habitants, nous sommes mouchiers de père en fils. Une tradition que j'ai suivie sans grand savoir, que mon père m'a transmise oralement sans peu de connaissances. Je savais lire et écrire difficilement, car l'instituteur était itinérant, et aucun livre sur l'apiculture n'était vulgarisé. Mon cheptel, composé de 5 à 6 paniers ressemblant à des meules miniatures, trônait au fond de notre jardin, installé sur des montants de poutres. Cette activité ne nous donnait guère de travail et procurait un petit revenu supplémentaire à notre situation de manouvrier. À la mort de mon père, par tradition populaire, je suis allée avertir les mouches que leur maître était mort et que je prenais la succession en les coiffant d'un crêpe noir. Ce rituel fait, j'ai continué ce passe-temps sans beaucoup m'en préoccuper, en suivant les instructions orales de mon père et sa méthode de travail. Récoltant des essaims à droite et à gauche, selon les indications du monde agricole, essayant de les obliger à se poser, en prononçant ces paroles « Venez, mes belles, de par Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ou en faisant un charivari avec des casseroles imitant le bruit du tonnerre. La manière de récolter, ou plutôt de prendre le miel, était d'une sauvagerie commune à tous les mouchiers de la région. Étouffant, tranchant, tuant la population sans aucune compassion, avec des mèches soufrées ou en les noyant pendant la période de l'été, pour récupérer, au cours de cette Saint-Barthélemy, un peu de cire et de miel qui nous servait à édulcorer les confiseries et les gâteaux. Ainsi qu'à fournir aux marchands itinérants qui passaient avec ses tonneaux chez les mouchiers de la région, le miel mélangé de couvains et d'abeilles mortes noyées sans aucun état d'âme de notre part. Ils le revendaient, après l'avoir filtré, aux apothicaires de la région pour la préparation de leurs onguents. La cire, j'allais les porter à la ville voisine, à la maison Henri Berbin, cirier, pour un peu d'argent. Elle était transformée soit en cierge pascal de communion, ce qui était une spécialité et tradition de l'époque, soit en bougie filée, soit en cierge pour la chandeleur et les ex-voto qu'on accrochait dans l'église pour récompenser un saint d'un vœu exaucé. Les gâteaux de miel que je recueillais après le carnage impitoyable étaient posés sur une clé en osier pour s'égoutter et les alvéoles griffées pour favoriser l'écoulement du miel. C'était vraiment rudimentaire, mais conforme à cette époque. Un bouleversement allait tout changer dans ma méthode de travail du monde apicole, la mort de notre curé. C'était un bon vieux curé de campagne avec une main leste quand, enfant, nous répondions mal à ses questions sur la religion. Il m'avait octroyé la tâche de m'occuper de son jardin, rempli de fleurs et de plantes officinales. Le diocèse nous a envoyé un nouveau curé qui a pris l'organisation de la paroisse et logé dans le presbytère en compagnie de sa vieille mère Babette. « Je m'appelle Jean-Baptiste, me dit-il un jour, et je voudrais que vous entreteniez mon jardin comme vous l'avez fait avec mon prédécesseur. Mais je voudrais que vous semiez des plantes mellifères en plus du potager. » Que voulait-il dire par ces plantes en fer? Il était vraiment bizarre. Je remarquai alors qu'il avait des petites maisons de bois au fond du jardin d'où s'échappaient des mouches. Je l'interpellai en criant « Il y a un essaim de mouches dans ces boîtes !»« Ce sont mes ruches, me dit-il, que j'ai fait amener et je pratique l'apiculture moderne. J'ai su par les commérages que vous aviez aussi des abeilles. Moi, je suis un mobiliste, ruche avec des cadres mobiles. Ainsi donc, Vous êtes un fixiste. Ruche sans armature, les abeilles bâtissant dans toutes les directions. Un étouffeur, un criminel, un assassin envers le monde animal et la République des abeilles. Un Néron, un brûleur, un incendiaire du monde merveilleux des abeilles. Un béotien plus qu'attardé de ce peuple qui est une république tout en étant une monarchie. J'étais sidéré par les paroles de mon curé et ne comprenais pas cette harangue sur mon nez rond envers cette perpétuelle tradition. Un béotien, que voulait-il dire ? J'étais du Saint-Ois et ne me considérais pas comme néfaste à la République. Et il continuait. Vous abattez l'arbre pour avoir le fruit. Emparez-vous du miel, mais de grâce, laissez vivre ces petites bêtes qui ne demandent qu'à travailler, vivre et vous apporter un petit revenu. Il vous faut abandonner ces méthodes ancestrales de tuer celles qui travaillent pour vous. Mais, monsieur le curé, pour avoir du lard, il faut bien tuer le cochon. Et pour avoir du miel et de la cire, il faut tuer et étouffer les mouches. Il me jeta alors un regard sévère. Regardez au fond de mon jardin ces petites maisons de bois. Une seule rapporte autant que vos 6 paniers. Écoutez-moi. Et si vous suivez mes conseils, vous pourrez, en construisant ces ruches, sur un format et des cotes bien précises et sur mes conseils, améliorer vos connaissances ainsi que votre expérience et augmenter votre cheptel sans oxyre pour autant vos abeilles. Il m'a enseigné les rudiments essentiels de l'apiculture. Il m'a appris à me servir d'un enfumoir plutôt que d'un flambeau de paille et de chiffon. M'a donné les cotes pour bâtir ma première ruche et la gouverner. Il m'a appris, à mon grand étonnement, que ce n'était pas un roi qui gouvernait cette république, mais une reine. Et quelle était sa fonction ? Je crois que j'ai été un bon élève, et le savoir qu'il m'a enseigné m'a permis d'améliorer ma situation auprès de mon entourage. Je suis ainsi devenu apiculteur, mais plus jamais mouchier. »